Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième entretien dans des clés pour vivre avec, pour intervenant jusqu'à demain, Monseigneur Emmanuel Gobillard. Rebonjour.
Bonjour, bonjour.
Monseigneur. Alors, au programme, et aujourd'hui, je vous propose de missionner sur cet appel. Et le pape François aussi nous appelle et appelle chacun des laïcs, chacun des curés aussi, en paroisse, en mission dans leur ministère, de devenir ses disciples missionnaires. Alors, qu'est-ce qui fait un bon disciple missionnaire? Quelles sont les qualités requises pour répondre un petit peu à cet appel de la mission, Monseigneur? Et merci de toutes vos réponses.
Je ne vais pas me mettre à la place du pape François. D'abord, il le décrit très bien. Hein. Le disciple missionnaire, c'est d'abord le disciple qui sait qu'il est envoyé au nom d'un autre, déjà. Hein. La mission, elle vient de Jésus. C'est pas moi qui possède ma mission. Et il est aussi envoyé avec une spécificité. Moi, je voudrais dire d'abord mon admiration de voir des gens tellement différents qui sont envoyés. La diversité des personnes, ça fait partie de la mission. Donc, avant d'être envoyé en mission, on doit humblement se demander quelle est la grâce propre que nous portons. La grâce propre et comment on peut la déployer. Voilà. Ça veut dire de bien se connaître et d'être toujours relié à la parole de Dieu, d'être toujours relié au Seigneur. À la fois de bien se connaître et d'être lié au Seigneur. Voilà, je pense que ce sont les clés. Hein. Et du coup, il y aura jamais de comparaison.
Qu'est-ce que vous parlez de bien se connaître, d'être quand on a été un petit peu cassé, abîmé, d'être restauré, cette unification aussi de la personne, cette connaissance d'elle-même.
Bah, la connaissance de soi, elle peut pas se vivre en dehors du regard de Dieu. C'est-à-dire que celui qui nous connaît le mieux, c'est aussi celui qui nous aime le plus. S'il nous aime autant. Et qui nous connaît quand même, c'est qu'il a des raisons de nous aimer. Voilà. Et à un moment, on a besoin d'être dans la confiance aussi pour être envoyé. Il n'y a que Jésus qui peut rétablir et qui peut restaurer cette confiance. Sinon, on est dans la comparaison et on veut faire la même chose que les autres. Et on se compare aux autres et on est dans la compétition. En fait, l'Église est belle de sa diversité et donc de sa complémentarité. Et donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse se recroqueviller sur soi ou sur le fait d'être prêtre, ou sur le fait d'être laïque, ou sur le fait d'être diacre, ou sur le fait de que sais-je. On a besoin de tout ça. On a besoin que chacun déploie sa grâce. On a besoin que chacun soit lui-même profondément. Et on ne peut être soi-même que sous le regard de Dieu.
Alors on parle de mission, d'envoi en mission, d'être des disciples missionnaires et de bons disciples missionnaires pour répondre à cet appel de Dieu. Mais dans cet appel, il y a effectivement la beauté de la diversité, mais il y a aussi ces confrontations et les jalousies. Monseigneur Gobillard, elles sont bien réel sur le terrain, en paroisse, les jalousies aussi sacerdotales entre frères prêtres. Est-ce qu'on peut dire que ça peut aussi tuer quelque peu et freiner la mission?
Ah, d'abord, elles naissent de quoi ces jalousies? Elles naissent justement de la comparaison. C'est-à-dire que je suis jaloux de la grâce propre de l'autre ou de l'activité de l'autre. Mais justement, le Seigneur me demande de ne pas faire comme l'autre. Donc ça, c'est complètement stérile de vouloir ressembler à l'autre ou d'être dans la comparaison par rapport à l'autre ou de vouloir la mission de l'autre ou de vouloir l'état de l'autre. Vous savez, le pré est toujours plus vert dans le champ d'à côté. Donc à un moment, on est célibataire, on a envie de on regarde les gens mariés en se disant « Oh là là, ils ont de la chance ». Ou les gens mariés, ils regardent les célibataires en se disant « Oh là là, quelle chance, ils n'ont pas tous les enfants ».
C'est votre expérience, c'est l'expérience qui parle, non?
Voilà, c'est ça, mais bien sûr. Et donc à un moment, il faut juste accueillir ce que nous sommes, la mission que nous avons, la vocation que nous avons, l'état de vie que nous avons sous le regard du Seigneur, et se dire que avançons en faisant humblement ce que le Seigneur nous demande. Je pense que pour contrer cette tentation grave de la jalousie, il n'y a qu'une chose, c'est l'obéissance. Pour moi, c'est le Padre Pio qui est le modèle absolu dans ce domaine-là. Le Padre Pio, un évêque adultère, lui a demandé de ne plus confesser et de ne plus célébrer la messe. L'évêque était jaloux. Comment il a réagi, le Padre Pio? Il aurait pu se rebeller en disant « Mais il y a tellement de bien qui se fait à travers la confession, il y a tellement de bien qui se fait à travers l'Eucharistie. » L'évêque avait tort, et pourtant, le Padre Pio a obéi. D'accord ? Humblement, il a même traité de suppôts de Satan ceux qui voulaient qu'il désobéisse à son évêque. Il a obéi humblement. Qu'est-ce qui se passe maintenant, des années après? au sanctuaire du Padre Pio, il y a 9 millions de personnes qui viennent chaque année. C'est-à-dire qu'il a vécu le mystère de la croix, il a vécu l'obéissance de la croix. Et en plus, il a obéi à quelqu'un qui n'était absolument pas ajusté et qui faisait une erreur objective. Il a pourtant obéi. La radicalité de l'obéissance. Et ben avec ça, le Seigneur a fait des miracles de fécondité. Et aujourd'hui, les gens se confessent par centaines, par milliers au sanctuaire. Et le Padre Pio est déjà mort. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui agit. C'est lui qui intervient à travers cette humble obéissance du Padre Pio, comme de tous ses saints, comme de celle de Saint Pierre. Voilà. Pour moi, c'est très important de se dire, reconnaître que nous sommes que des serviteurs, reconnaître que c'est le Seigneur qui agit, ça passe par une obéissance fondamentale. On a peur de ce mot obéissance, et pourtant, c'est la clé de tout. C'est l'obéissance du Fils à l'égard du Père qui nous sauve. Et donc, l'obéissance, c'est rentrer dans l'obéissance du Fils. Et si le Seigneur nous envoie à tel endroit et qu'il envoie tel autre à tel autre endroit, tant mieux, parce que la mission en a besoin.
Et oui, ta mission. Vous avez évoqué aussi cette figure aussi de Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus à travers aussi Pierre, Pierre qu'il a appelé, Pierre qui a été choisi, et celui pourtant qui a été à trois reprises dans la trahison.
Ah, c'est ça, pour moi, c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas construire l'Église, on ne peut pas être fécond si on ne découvre pas profondément sa pauvreté. C'est-à-dire que le mystère de la pauvreté, c'est quelque chose de très important. D'abord, c'est la première béatitude, c'est le thème de l'année à Lourdes en ce moment. J'aime beaucoup ce thème, parce que la pauvreté, c'est de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi.
Et nous enregistrons dans les studios de Lourdes, très loin de cette grotte aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, la pauvreté fondamentale, c'est de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien.
Donc, c'est un cri.
Et donc, c'est un cri. Et tant que le Saint-Pierre n'a pas poussé ce cri, en fait, il ne peut pas être ouvert à la fécondité. Il s'imagine encore que c'est lui qui va convertir. Il s'imagine encore que c'est lui qui va construire l'Église. Mais pas du tout. La preuve, c'est que le Seigneur l'envoie au moment où il est complètement humilié. Au moment où il a trahi, le Seigneur lui fait à nouveau confiance parce qu'il est capable, enfin, de pousser ce cri. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je suis qu'un pauvre type, qu'un pauvre pécheur. Et grâce à toi, grâce à ta miséricorde, grâce au pardon, je suis restauré. Grâce à toi, je vais pouvoir être le canal de la grâce et non pas l'arrêter, la grâce. Parce que si on est dans l'orgueil ou si on s'imagine que c'est nous qui transmettons la grâce du Seigneur, en fait, on l'arrête à ce moment-là. Donc, découvrir que on est des pauvres gars, et le Seigneur nous envoie avec nos faiblesses.
En fait, ne pas se prendre au sérieux, c'est ce qu'on peut entendre.
Et je trouve que l'exemple de Saint-Pierre, pour moi, c'est l'exemple de l'Église. Il a fondé l'Église sur la miséricorde de Dieu. Sur la miséricorde de Dieu. Pas sur ses qualités, ni même sur son péché d'ailleurs, mais le Seigneur s'est servi de son péché.
Ni sa personnalité, forte personnalité.
Quand même, le Seigneur, une fois qu'on a renoncé à tout ça, le Seigneur le réutilise. C'est-à-dire que il nous appauvrit, et on a vécu le péché, on vit la miséricorde, le Seigneur nous a appauvris radicalement, donc il peut agir à travers nous, et ensuite il réutilise nos qualités. C'est ça qui est fantastique, c'est que parfois il a besoin de nos faiblesses pour qu'on crie vers lui, et ensuite il utilise à nouveau nos qualités et nos dons et nos spécificités, mais de façon plus ajustée.
C'est l'expérience qui parle.
Je ne sais pas, je pense, oui, peut-être.
Monseigneur Hervé, Monseigneur Emmanuel Goubière, je vous propose le tout dernier entretien demain dans ce lieu. On n'a pas évoqué encore Marie, mais Marie, mère de l'Église, Marie médiatrice, Marie aussi cette mère protectrice pour tous les frères prêtres et tous les frères évêques que vous représentez aujourd'hui et cette semaine au micro. On en parle, si vous voulez bien, demain à la même heure.
Très bien, merci, à demain.